Bonjour à tous, c'est Naïs Morata et on se retrouve aujourd'hui sur Radio Saint-Tri. Je suis en présence de Mathilde, Ludivine et Tristan, mais aussi de notre fabuleux ingénieur son. Je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Nous allons aborder différents types de sujets tels que les sujets sportifs, les sujets sur la mode, la robotique et sur le cinéma. Nous allons voir avec nous des spécialistes que nous allons pouvoir questionner. J'espère que ces différentes rubriques vous plairont. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous manque terriblement, de quelque chose que nous aimons particulièrement. Nous allons vous parler de
cinéma.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal?
Pourquoi pas?
C'était un extrait d'Un homme et d'une femme, de Claude Lelouch.
Merveilleux.
Oui, trop bien.
Commençons par vous parler de notre cinéma. Le cinéma français, n'est-ce pas Ludivine?
Effectivement. Retraçons en quelques minutes l'histoire du cinéma français. Alors, le premier film est un dérivé de plusieurs inventions qui ont eu lieu au cours du 19e siècle. Les frères Lumière mettent au point le cinématographe au cours de l'année 1895. Cette machine permet de prendre des vues photographiques animées. Le 13 février, les frères Lumière déposent le brevet du cinématographe avant de le présenter, le 22 mars, en projection privée à Paris. L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, ou l'arrivée d'un train à La Ciotat, est un film majeur de l'histoire du cinématographe. Depuis cette invention, beaucoup de gens se sont pris de passion pour cette nouvelle tendance. Des films de plus en plus longs se sont tournés avec des réalisateurs qui resteront marqués dans la naissance du cinéma français. Tout d'abord avec un cinéma muet qui durera jusqu'en 1927, marqué par des réalisateurs, acteurs et films cultes, J'accuse d'Abel Gance, Napoléon d'Abel Gance également.
Qui dure 5h30 d'ailleurs.
Exactement. Marcel Herbier, Louis de Luc et entre autres. Juste après, il y a eu René Clair ou Jean Renoir, ainsi que des acteurs qui deviendront des stars comme Jean Gabin, Greta Garbo, etc. Là, c'était plutôt dans la transition cinéma muet au cinéma parlant. Ensuite, il y a eu un mouvement que nous connaissons tous, qui a permis l'émergence de nombreux films et acteurs.
La nouvelle vague, c'est ça ?
Exactement. Ça a été un sacré tournant pour le cinéma français qui a retenti dans tous les pays du monde. La nouvelle vague, née durant les années 1950, rassemble des réalisateurs qui ont tourné leur premier long métrage à cette période. De nombreuses figures emblématiques se sont révélées comme François Truffaut qui réalisa Naïs,
Les 400 coups, La nuit américaine ou encore Le dernier métro.
Oui, Jean-Luc Godard, Tristan,
Le mépris ou Une femme mariée.
Exactement, et Jacques Demy réalisa Mathilde,
Les demoiselles de Rochefort, Les parapluies de Cherbourg ou encore La baie des anges.
Oui, très bien. Ces réalisateurs, grâce à leur nouveau style de cinéma, ont attiré la curiosité du monde entier, voulant découvrir cette nouvelle manière de voir le cinéma. Les carrières de nombreuses icônes du cinéma français ont débuté avec des films de la nouvelle vague. Des icônes qui, maintenant et pour toujours, resteront dans l'histoire du cinéma et resteront des icônes dans le cœur des gens. Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Anna Karina, Yves Montand, Romy Schneider, Simone Signoret... Trop nombreux pour tous les citer. Au cinéma, que ce soit américain, français ou polonais, il existe des censures, c'est-à-dire une certaine interdiction de montrer certains films jugés censurables par le pouvoir public parce qu'ils sont trop osés, qu'ils cassent les codes et stéréotypes.
Qu'ils dérangent, quoi.
Oui. Il y a un film en particulier qui a fait polémique longtemps. Sorti le 5 novembre 1968...
Ah oui, c'est Les Amants de Louis Malle avec la grande Jeanne Moreau.
Exactement, avec Jeanne Moreau. Ce film laisse apparaître pour la première fois des scènes érotiques, où les ébats amoureux d'une femme sont spécifiquement montrés. Jeanne a été la première femme à se dévoiler dans ces conditions et a tenu tête à toutes les injures qu'elle a reçues. Elle est, et personne ne niera, une réelle icône du cinéma. Elle a reçu un Oscar et de nombreux Césars, notamment grâce à ce genre de films qui font avancer la société. Les films est maintenant un chef-d'œuvre.
J'adore.
Moi aussi. Les améliorations dans le cinéma se sont faites grâce à ces personnes-là, bougeant les choses, les personnes en avance sur le temps, qui s'assument et veulent montrer une image différente des femmes. Catherine Deneuve y a contribué en participant en tant que premier rôle à un chef-d'œuvre du cinéma français, Belle de jour.
De Luis Buñuel.
Oui, Mathilde nous en parlera dans quelques instants.
Effectivement.
Grâce à la persévérance de ces actrices, contre la censure, grâce à leur envie de faire évoluer les mentalités, grâce à leur courage et leur volonté, ces œuvres ont permis de passer par-dessus la censure. De pouvoir raconter les histoires que l'on voulait sans se soucier de rien. Bref, de casser les codes. La politique de censure et la vision du cinéma auraient été aujourd'hui similaires à celle de l'époque si ces femmes n'avaient pas existé. À partir de la fin des années 1970, le cinéma français entre dans une période difficile. Le nombre de spectateurs chute. Mais l'arrivée de Canal+, en 1984, fait du cinéma l'un des éléments essentiels. Les années 2000 confirment la bonne santé du cinéma français. Aujourd'hui, il nous manque terriblement. Nous avons trop hâte de le retrouver et de s'évader encore et encore dans les films.
Waouh, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Ludivine. Hein. Mmh. Bon, bah, après le cinéma français, parlons à présent du cinéma américain.
My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Si vous n'avez pas reconnu, c'était la fameuse réplique de Forrest Gump, magnifique film aussi.
Ah, effectivement. Ouais.
Donc, le cinéma américain est une industrie puissante et très structurée dans laquelle le financement et la mercatique sont toujours au premier rang des critères de décision. Dès 1897, Edison, qui est l'un des plus grands inventeurs américains, intente plusieurs procès à tous ses concurrents dans le but d'être le seul à posséder le brevet d'un appareil dérivé du cinématographe, le kinétoscope, dont il se prétend le père. Face à ces différentes attaques, le représentant des Lumières en Amérique se voit contraint de quitter clandestinement le pays à bord d'un transatlantique et peu de temps après, l'invention des deux frères français est confisquée. Durant ces événements, quelques aventuriers dont William Fox, un teinturier reconverti dans le cirque, Adolphe Zukor, un marchand de fourrures et Warner, quatre frères réparateurs de bicyclettes.
Mais attends, c'est les fondateurs de la grande société de production Warner Bros.
Mais exactement, eh bien ils se lancent dans la production de films. Il crée les Nickelodeon et en moins d'un an, par serment, le paysage américain de salles de projection au grand confort est à tarif imbattable. C'est grâce à ce projet d'envergure que le public découvre, dès 1902, de nombreuses copies de bandes pâtées importées de France, ainsi que plusieurs courts-métrages réunissant des acteurs d'Europe de l'Est ne connaissant pas la langue américaine. Et pour le cinéma, encore mieux à cette époque, était une aubaine.
Ouais, à l'époque, il y avait The Interrupted Brothers ou encore Fun in Baccarat Shop.
Voilà, entre autres. Mais le premier grand événement marquant du cinéma américain se déroule en 1914, lorsque David Griffith, inspiré par le roman de Dixon, The Classman, se lance dans la réalisation du film dont le tournage, pour lequel il eut du mal à trouver des financements, dura plus de 4 mois. Outre son incontestable réussite commerciale, ce film signe le début des mises en scène supérieures à 80 minutes, appelées...
Les longs métrages.
C'est ça. Au fur et à mesure du temps, le cœur du cinéma américain se situe à Hollywood, un quartier de Los Angeles où est produit la majeure partie des programmes audiovisuels et télévisuels américains. Par métonymie, le mot Hollywood peut désigner l'ensemble de l'industrie audiovisuelle américaine, ou du moins les studios importants. Il est à présent le premier poste de revenu de l'économie des États-Unis à l'étranger. Les films produits aux États-Unis sont ceux qui réalisent la majorité des entrées en salle, 62,5% des entrées en 2001, grâce à Titanic avec Leonardo DiCaprio dont Tristan vous parlera,
ouais,
ou encore Le Parrain avec Al Pacino. Les Américains ont profondément enrichi le cinéma français, le cinéma avec de nouvelles techniques. Il s'est certes très inspiré du cinéma français et des différents changements que celui-ci a connus, mais le cinéma américain est impressionnant tant dans ses techniques de réalisation que dans son panel d'incroyables réalisateurs. Steven Spielberg, Mathilde.
Ah oui, la liste de Schindler ou Pentagon Papers.
Exact. Francis Ford Coppola avec...
Le Parrain.
Scorsese, Tristan.
Taxi Driver.
David Lynch avec...
Mulholland Drive.
Tarantino, Ludivine. Kill Bill. Ou Woody Allen avec...
Manhattan.
Et bien sûr, des fabuleux acteurs, Catherine Hepburn, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Cary Grant ou plus récemment Meryl Streep, Sharon Stone, Nicole Kidman, Julia Roberts, Robert De Niro, Clint Eastwood, Jack Nicholson et entre autres. Et bien voilà. C'en est tout pour le cinéma américain qui nous manque aussi terriblement. On a hâte, hein?
Ah ouais.
Maintenant que nous avons abordé le cinéma hollywoodien, parlons de la personne qui le représente le mieux. C'est le plus beau des Américains. On a tous été amoureux de lui dans un célèbre film où un bateau se prend un iceberg avec sa petite mèche blonde là qui fait craquer. C'est depuis un des meilleurs acteurs de sa génération. Et c'est
Leonardo DiCaprio.
Oh!
Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était évidemment un extrait du Titanic.
Ah, génial.
Qui ne reconnaît
pas. Ouais, c'est ouf. Bon, comme beaucoup le savent, Leonardo DiCaprio est une des plus grandes stars du cinéma hollywoodien, voire la plus grande de sa génération. Il est né à Los Angeles le 11 novembre 1974 et a donc aujourd'hui 46 ans. Toute son enfance, il est influencé par un proche qui a commencé, lui, sa carrière d'acteur très très tôt. Mais Leonardo DiCaprio est encore petit, mais il sait déjà exactement ce qu'il veut faire, et c'est d'ailleurs ce qu'il fera, c'est-à-dire acteur de cinéma. À 18 ans, après un casting, il joue dans Blessure secrète, accompagné de Robert De Niro.
Son idole.
Ouais, c'est ça, exactement. Il est aussi un des plus grands. À partir de là, sa carrière décolle à l'international. Il reçoit son premier Oscar, Oscar du meilleur acteur, dans un second rôle, à 19 ans, grâce à sa prestation dans Gilbert Grape, aux côtés de Johnny Depp. Ensuite, il triomphe dans son rôle dans Roméo et Juliette, l'interprétation cinématographique de l'œuvre du grand Shakespeare.
Très bon film, d'ailleurs.
Ouais, en 1997, il se fera une vraie place dans le cinéma et devient une star planétaire avec son rôle principal dans le film Titanic. Ouais, qui aujourd'hui est un des classiques du cinéma mondial. À partir de là, il reçoit des tas de propositions en France, notamment avec L'Homme au masque de fer, avec notre cher Gérard Depardieu.
Ah, d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, si tu permets. Ma mère, elle travaille dans le cinéma et elle est allée sur le tournage du film, de ce film-là, parce qu'elle connaît très bien, elle connaissait très bien Gérard Depardieu, et elle a fait connaissance avec DiCaprio.
Attends, quoi?
Ouais, je vous jure que c'est vrai.
Mais non.
Si, si, je vous jure que c'est vrai.
Il était comment?
Incroyable.
Ah, bah, apparemment aussi beau que dans ses films, très intéressant et surtout très gentil.
Je vais être à la place de ta mère.
Ouais, moi aussi.
Bon, reprenons. Il a toujours été très discret sur sa vie personnelle, mais il est quand même sorti avec plusieurs mannequins célèbres au fil des années, puis aussi avec l'actrice Blake Lively, je crois.
Oui, celle qui joue Serena dans
Ah, voilà, ah, c'est elle, c'est elle, exactement.
Ah, j'adore cette série.
Bref, sa carrière en tant qu'acteur compte un tas de films, et c'est avec The Revenant que la star hollywoodienne obtient son premier Oscar du meilleur acteur. Il faut aussi savoir que notre star prodige n'est pas qu'un simple acteur, mais aussi un réalisateur et un producteur de films qui sont produits et réalisés en faveur de sa campagne de prévention écologiste. Pour conclure, enfin voilà, on est content que Leonardo DiCaprio existe, il est gentil.
Ah oui, il est beau.
Oui, aussi.
Et il a joué dans de super
films. Oui, voilà, voilà, exactement. C'est tout pour notre DiCaprio.
Ok, donc maintenant je vais vous parler, on a parlé du cinéma américain, on va parler du cinéma français et celle qui la représente le mieux. Elle est française, considérée comme la plus belle femme du monde, avec sa magnifique chevelure blonde et sa cigarette à la bouche, habillée en Saint-Laurent dont elle fut l'amie. Éternelle demoiselle, c'est la plus grande des grandes, un mythe, c'est...
Catherine Deneuve.
Eh bien, qu'est-ce qu'il y a?
Rien, pourquoi?
Comment, pourquoi? Vous êtes malade?
Non, et vous?
Ah bien, écoutez, vous venez de moi, là, ou quoi?
Ben voilà, oui, vous avez trouvé.
Donc c'était évidemment Le Sauvage avec Yves Montand, l'excellent film de Jean-Paul Rapneau. Ma mère a également travaillé avec lui.
Encore ? Elle a travaillé avec les plus grands.
Exactement. Donc, Catherine Deneuve s'appelle en réalité Catherine d'Orléac. Elle est née le 22 octobre 43 à Paris dans une famille de 4 filles, Tristan.
C'est pas mal.
C'est pas sa grande sœur qui voulait être actrice.
Exactement, Naïs. C'est Françoise d'Orléac, sa grande sœur, qui voulait être actrice à tout prix. Alors que Catherine, elle, bon, ne pensait pas vraiment à son avenir, mais plutôt au garçon, à l'amour. Mmh. Donc, ce fut le hasard.
Comme quoi, le hasard fait bien les choses.
Exactement. Françoise eut besoin de quelqu'un pour jouer sa sœur au cinéma avec Daniel Darieux. Alors, Catherine accepta. Elle avait 17 ans. Elle se fit remarquer, joue dans des seconds rôles, dans quelques films, jusqu'à avoir connu Roger Vadim, qui sera le père de son fils, et qui la fera tourner dans plusieurs films comme « Et Satan conduit le bal » ou « Le vice et la vertu ». Elle prit donc le nom de jeune fille de sa mère, Deneuve, pour ne pas voler la vedette à sa sœur, qui, elle, était la vraie star, ou du moins voulait l'être depuis toujours. Enfin, la carrière de Catherine décolle complètement grâce à sa rencontre avec Jacques Demy et le tournage des Parapluies de Cherbourg en 63, qui sera un chef-d'œuvre mondial. Elle a souvent dit d'ailleurs que si elle n'avait jamais connu Jacques Demy, elle n'aurait peut-être jamais continué les tournages. Mais tout s'enchaîne, elle y prend goût, sa sœur la pousse et l'encourage, vous imaginez bien. Les sœurs d'Orléac, le duo gagnant. Elles ont même tourné un film ensemble.
Ah ouais, Les Demoiselles de Rochefort.
Exactement, en 67, également de Jacques Demy. Et bien sûr, un chef-d'œuvre qui restera dans les classiques du cinéma français. Malheureusement, cette année 67 est marquée par la mort tragique de Françoise d'Orléac, juste après le tournage du film, en se rendant à la première projection.
Ah mince.
Un accident de voiture sur une autoroute sous la pluie. Catherine ne s'en remettra jamais, vous imaginez. Elles étaient pratiquement sœurs jumelles, comme elle le chantait quelques mois plus tôt sur le tournage des Demoiselles dans la chanson de Michel Legrand. À partir de là, elle dit avoir énormément tourné, presque un peu pour se sauver de la peine, et les gens étaient impressionnés de sa capacité à jouer après ça. Enfin, Depuis le début de sa carrière, Catherine Deneuve fait tout avant tout le monde. Elle chante, elle danse, elle casse les codes et la politique de censure, comme tu l'as dit Ludivine avec le film Belle de jour de Louise Buñuel. Pratiquement tous ses films sont des chefs-d'œuvre. Vous pouvez m'en donner quelques-uns, je suppose.
Oui, bien sûr.
La Tristana, Le Sauvage.
Le Dernier Métro, Hôtel des Amériques.
Indochine, Il est bien aimé.
Ah oui, et plus récemment, La Vérité.
Oui, aussi.
Elle a aussi toujours été très très discrète sur sa vie privée.
D'ailleurs, les paparazzi ont bien compris qu'il fallait lui foutre la paix, surtout sur sa vie privée.
Exactement, ouais. Pas la toucher. Néanmoins, nous savons tous qu'elle a eu un garçon avec
Roger Vadim.
Oui.
Et aussi une fille avec le beau Marcello Mastroianni.
Exactement, Chiara Mastroianni, qui est maintenant aussi actrice. Catherine est passionnante de mystériosité. Quel que soit le rôle qu'on lui donne, on a l'impression qu'elle le joue, mais qu'il y a d'autres idées qui ne sont pas exprimées. C'est un mythe. Elle est forte, dynamique, drôle, émouvante et bien sûr extrêmement belle. C'est une femme qui n'est pas restée dans les cases attribuées et maintenant, beaucoup de choses sont possibles grâce au chemin qu'elle a ouvert. Je finirai par deux citations. La première de François Truffaut, que je trouve incroyable. « Belle, Catherine Deneuve l'est ». En effet, à tel point qu'un film dont elle est l'héroïne pourrait presque se passer de raconter une histoire. Je suis persuadée que le spectateur trouve son bonheur simplement à regarder Catherine et que cette contemplation suffit à rembourser le prix du ticket d'entrée.
C'est beau.
Oh, c'est beau.
Et la seconde, de Laurent Chalubeau, un journaliste. Quelle héroïne ! Les romanciers n'en inventent plus des comme ça. Les Américains, malgré tous leurs dollars, seraient infoutus d'en fabriquer. Chercher, comparer, CQFD... Il n'y en a qu'une, et c'est nous qui l'avons.
Moi, je préfère
déclaration d'amour.
Enfin bref, Catherine Deneuve, idole.
Bon ben, merci Mathilde. Hein.
Pas de soucis. En somme, le cinéma français nous manque tous. Nous espérons pouvoir retrouver l'ambiance intime des salles où on se demande comment le mec qui mange ses pop-corns peut entendre les répliques du film.
C'est tellement ça.
C'est horrible.
C'est horrible. On espère que cette chronique vous aura donné envie d'aller découvrir autre chose que ce que vous connaissez.
Ouais, d'aller voir autre chose que les Avengers et voilà.
C'est bien.
Mais, par exemple, oui, des anciens films, des films cultes.
Et bien sûr, d'approfondir un peu plus votre connaissance des carrières de ces deux monstres qui sont Deneuve et DiCaprio en regardant leur chef-d'œuvre.
Bon ben, merci à vous, c'était vraiment sympa et intéressant. On croise tous les doigts pour que l'on puisse un jour retourner au cinéma comme à l'ancienne.
Ah,
oui.
On espère.
Oh, oui.
Take a daddy. How do you know?
Écoutez As You Know de Disco. Les pauvres cinémas doivent être au bord du gouffre financièrement à cause de la pandémie. Mais ce ne sont pas les seuls à souffrir au niveau sportif. Le Covid a beaucoup de répercussions sur le monde du foot. Vous savez certainement, le Covid a fait perdre beaucoup d'argent aux clubs de foot. Tout d'abord, quels étaient les principaux revenus des clubs de foot hors Covid ?
Alors, les plus grands revenus habituels sont les droits TV, qui sont les revenus les plus importants, qui rapportent le plus d'argent grâce à des contrats avec des chaînes de diffusion, des contrats avoisinant les centaines de millions d'euros. Ensuite, on retrouve les sponsoring avec des contrats divers par rapport au club. Plus le club est fort, plus les contrats de sponsoring sont importants. La billetterie est un autre revenu important qui est généré grâce aux fans. Mais il ne faut surtout pas oublier les recettes de matchs lors de victoires, qui est un autre revenu. Moins important certes, mais c'en est un.
J'aimerais savoir, du coup, quels sont les secteurs de revenus à cause du Covid qui sont le plus touchés ?
Les secteurs de revenus qui sont le plus touchés sont la billetterie, car les fans n'ont plus accès au stade. Ensuite, certains détenteurs TV honorent à moitié ou pas du tout les contrats de droits TV. Le scandale de Mediapro en est l'exemple parfait.
Du coup, qu'est-ce que le scandale du Mediapro ?
Alors, Mediapro est une entreprise qui a racheté les droits TV du championnat de foot français. Elle a donc ensuite créé une chaîne pour la diffusion des matchs qui s'appelait Téléfoot. Mediapro envisageait environ 2 à 3 millions d'abonnés, mais en a obtenu seulement 400 000. Ce qui n'a pas été assez pour qu'ils puissent honorer leur contrat. A cause de cela, certains clubs français sont au bord de la faillite car ils ne se revêtent pas leur part des droits TV. L'entreprise a été d'une grande arrogance et l'a payé très cher par la suite.
Ok, donc là on voit que le Covid met le monde économique du foot en péril vu que les habituels grands revenus sont faibles voire inexistants. Mais est-ce que le monde sportif et physique a été touché ?
Alors oui, exactement, puisque pendant le confinement, la condition physique a été touchée, puisque malgré des séances de sport pour un entretien physique, ce n'est pas assez pour rester au meilleur niveau, surtout dans le foot.
Tout ça est catastrophique. J'ai l'impression que le Covid touche tout le monde dans tous les secteurs. Et auriez-vous des exemples des clubs touchés au niveau économique, par exemple ?
Oui, nous retrouvons le FC Barcelone, mythique club espagnol qui évalue ses pertes à 800 millions d'euros. Le club a donc fait baisser des salaires des joueurs de 70%. Cette baisse a été acceptée par la plupart des joueurs de l'équipe.
Donc même les plus grands clubs sont donc touchés. Et est-ce que des clubs ont aussi directement été touchés par le virus, par contamination ou aggravement ?
Effectivement, puisque de nombreux joueurs ont été testés positifs, bien sûr sans risque. Le premier club à avoir été touché est la Juventus de Turin. Grand club d'Italie et actuellement le meilleur.
Et le foot féminin, qui lui convoite moins d'argent, a-t-il été touché ?
Oui. Malheureusement, aussi car il y a des pertes économiques et une reprise de l'activité plus tardive. Le foot féminin français va bénéficier d'une aide à hauteur de 500 millions d'euros, ce qui est primordial pour la relance de cette activité.
C'est énorme.
D'accord. Oui, effectivement, c'est énorme. Du côté des entreprises de magazines sportifs, voire même de chaînes sportives, on peut voir que les effectifs ont été revus, avec grand nombre d'employés virés.
Exactement, puisque l'équipe, magazine sportif très connu en France, a dû virer plus de 25% de ses employés. RMC et Bein Sport, tous deux chaînes sportives et de foot principalement, ont également revu leur effectif environ bon nombre d'employés.
Oui, j'en ai entendu parler de ça. Et les parieurs sportifs professionnels qui ont tout de même une place dans ce milieu très élargi du foot, ont-ils aussi été touchés ?
Et oui, car pendant le confinement, il n'y avait plus de matchs. Donc, impossibilité de miser et de gagner de l'argent, avec un retrait de plus de 36% de parieurs professionnels.
Tout cela est très triste malheureusement et on voit donc que les répercussions sont partout dans le milieu du foot. Tout le monde est touché, que ce soit physiquement, psychologiquement et surtout économiquement. Mais y a-t-il des points positifs du Covid sur le foot ?
Avant de venir sur ce plateau, j'ai étudié les points positifs du Covid sur le foot et j'en ai trouvé un. L'argent. Je trouve que l'argent est trop présent dans le foot, notamment avec des transferts de joueurs avoisinant les centaines de millions d'euros, comme celui de Neymar à Paris. Donc oui, le Covid a un point positif sur le monde du foot.
On vous remercie pour votre présence les gars, surtout qu'en tant que Marseillaise, l'avenir du foot m'importe beaucoup. En parlant de supporters, malgré le fait qu'ils ne soient pas au Vélodrome, ils sont nombreux à traîner devant le stade. Et nos prochaines chroniqueuses en ont profité pour les interroger au sujet de la mode.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous vous retrouvons afin de répondre à la problématique « L'habit fait-il le moine ?». Et pour y répondre, des interviews seront réalisées sur différentes personnes et surtout différents âges. D'ailleurs, petit moment anecdote, selon vous, combien coûte le vêtement le plus cher ?
Moi, je dirais 500 000 euros.
Moi, je dirais environ 100 000 euros.
Moi, je pense que 250 000 euros.
Moi, je dirais 1 million d'euros.
Eh bien non, c'est 382 000 euros. C'est la veste tournesol de chez Yves Saint Laurent qui a été brodée à la main. Il a fallu près de 600 heures de travail. Est-ce que vous vous rendez compte que 600 heures de travail représentent 25 jours non-stop, jour et nuit ?
C'est énorme. Et vous, vous pensez qu'un Français dépense combien en moyenne par an ?
Bon, je pense à peu près 800 000, ouais, comme ça.
Moi, je dirais peut-être 500 euros en vêtements.
Moi, je dirais 10 000 euros.
Moi, je dirais 1000 euros.
Vous y étiez presque. 600 euros sont dépensés en moyenne.
Nous sommes allés au niveau du Prado Shopping pour interviewer les gens. Quel est votre budget shopping par mois ?
À peu près 150 euros. Bah après, nous, on a des réductions parce qu'on travaille déjà, on est vendeuse, donc on a déjà des réductions. Ouais,
moi, je dirais 200-300. Okay.
Et pour vous, quelle place a la mode dans votre vie ?
Ah, pour moi, dans ma vie, c'est important. C'est une manière, une manière de rester un peu jeune, de rester un peu, d'être un peu dans le coup. Voilà, c'est important.
Quel est le vêtement ou l'accessoire que le plus cher que vous ayez acheté ?
Le plus cher ?
Ouais.
Un sac Louis Vuitton.
Ok. Voilà. Et vous, quel est le vêtement ou l'accessoire le plus cher que vous ayez acheté ?
Allez-y.
Alors, moi, c'est une veste CP Compagnie.
Moi ? Ah, moi, je sais pas. Je vois pas, non, je sais pas.
Moi, je dirais une belle paire de baskets.
Ouais, moi aussi, en vrai.
Moi, je dirais peut-être une belle veste. D'après vous, pourquoi suit-on la mode ?
Parce qu'aujourd'hui, c'est important pour les personnes et dans la tête des gens d'être comme tout le monde.
Est-ce que vous pensez que l'habit fait le moine ?
Ça dépend dans quelles circonstances. C'est pas le métier qu'on a.
Hein.
Sur des chantiers, moi je peux pas être à Armani.
Et quelle place a la mode dans votre vie ? Est-ce que c'est important pour vous ?
Ah oui, quand on sort, c'est bien d'être élégant quand même. Hein.
D'après vous, est-ce que l'habit fait le moine ?
Voilà. En plus, moi je travaille un peu sur ça en fait. Mais en gros. L'habit fait pas forcément le moine, mais par contre, on va penser que ça fait le moine.
Ok, ça va. Et ensuite, quelle place a la mode dans votre vie ?
Pas trop. Enfin, m'en fous un peu. Okay. Je fais pas trop attention à ça.
Nous pensons que l'habit ne fait pas le moine, étant donné que cela ne représente ni la classe sociale, ni l'éducation, ni l'âge. Comme par exemple, une personne riche peut s'habiller très simplement, c'est-à-dire un t-shirt et un jean, c'est-à-dire sans marque apparente, et bien sûr, inversement. Oui, donc la façon de s'habiller est seulement ce que l'on veut montrer, ce n'est qu'une facette de notre personne. Comme le dit Oscar Wilde, dans la philosophie du vêtement au XXIe siècle, la mode est une forme de laideur si intolérable que nous devons la modifier tous les 6 mois.
Bon ben merci beaucoup les filles, ça fait toujours plaisir d'entendre des avis de Marseillais ou de Marseillaises, et surtout quand c'est au micro de Radio Saint-Tri. Thank you.
This is a newsome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you.
Connaissez-vous cette chanson de Virtual Friends, Paris la nuit? Personnellement non, et franchement j'adore. On reste toujours dans la mode, mais cette fois-ci, attachez-vous bien, nous remontons le temps jusqu'aux années 90 et nous sommes avec Clara, Aurore et Anaïs pour nous en parler.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très vaste, l'influence et le renouvellement de la mode.
Oui, c'est exact. Bon, du coup, vous en pensez quoi de la mode, vous les filles?
Moi, je trouve ça trop cool, puisqu'on peut exprimer notre style vestimentaire et on peut le changer à notre guise et exprimer notre personnalité et être unique.
Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que la mode, elle nous calibre. Par exemple, quand un habit est en tendance, tout le monde veut l'avoir et alors c'est plus trop unique.
Ah oui, je suis d'accord. La mode nous permet de nous découvrir le style qui nous convient. Mais je suis aussi d'accord sur le fait que la mode nous met une certaine pression pour être habillée comme la tendance du moment.
C'est vrai. Souvent, on a peur d'être rejetée. Du coup, on se met à la mode pour ressembler aux autres et ne pas se sentir jugée.
Ben, c'est surtout que les adolescents qui sont touchés par ça, comme ils sont en pleine croissance, pour eux, l'image qu'ils renvoient aux gens est très importante. Ils veulent se sentir entourés et aimés par les autres.
Oui, je pense qu'ils ont peur d'être eux-mêmes, mais les jeunes peuvent aussi, grâce à la mode, s'exprimer et devenir eux-mêmes. Mais pour d'autres, cela est une façon de se sentir qu'on appartient à un groupe.
Par exemple, costard-cravate pour les hommes d'affaires ou la robe blanche de mariée. Des fois, au sein d'un groupe d'amis, il y a un même style. Punk, gothique, chic, oversize, junkie.
Ou même des fois, quelqu'un qui n'a pas de style particulier. Pour s'adapter à son groupe d'amis, il va commencer à faire pareil qu'eux. Par exemple, si mes amis faisaient tous du skate, peut-être que même moi, je m'y mettrais aussi, sûrement.
Ouais, c'est ça l'influence.
Oui, en parlant d'influence, on peut dire que les adolescents et les jeunes ne sont pas que influencés par leurs amis, ils sont aussi influencés par les influenceurs présents sur les réseaux sociaux.
Souvent, les célébrités vont influer sur notre façon de nous habiller. Par exemple, quand la youtubeuse Lena Situation nous parle de la marque Jennifer, Adidas ou Dior et d'un produit qu'elle trouve super, on a confiance en son jugement et on a envie d'acheter le produit.
Mais il n'y a pas que Internet qui nous influence. Il y a aussi les publicités dans la rue, les magazines de mode qui sont totalement dédiés à ça et les pubs à la télé. Quand on voit à quel point les mannequins sont parfaites, On a tout de suite envie de leur ressembler. Et pour cela, on va donc acheter les habits que la marque propose.
C'est l'injonction à la mode et à la beauté. D'ailleurs, est-ce que vous, vous vous sentez influencé par la mode ?
Je pense que tout le monde est un peu influencé, mais à une échelle différente.
Oui, les jeunes sont beaucoup plus touchés, et en l'occurrence, nous. On veut être à la pointe de la mode.
Sinon, pour changer de sujet, on a pu observer que la création de vêtements est extrêmement polluante.
Oui, en effet, l'arrivée de la fast fashion a bouleversé l'industrie de la mode. Ça a accéléré le rythme de production, augmenté le nombre de collections et aujourd'hui, vous vous rendez compte, il y a plus de 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année, soit 60% de plus qu'il y a 15 ans.
Mais d'un point de vue environnemental, c'est absolument catastrophique. L'industrie textile est la cinquième industrie la plus polluante. La création, le lavage et l'utilisation du coton sont très néfastes pour la planète. Mais il y a quand même des solutions, comme la mise en place de la slow fashion.
En effet, par exemple, la création du label Slow We Are, qui répertorie les marques engagées dans une démarche éco-responsable, ou l'application Clear Fashion, qui note les vêtements en fonction de leur impact environnemental.
Oui, ou encore les applications de vente d'occasion qui augmentent énormément en popularité, comme Vinted, Le Bon Coin, Give. Et d'ailleurs, vous, est-ce que vous seriez prête à acheter ou vendre sur ces sites ?
Alors moi, je pense que je préférerais vendre plutôt qu'acheter, car on n'est jamais à l'abri d'arnaques.
C'est sûr, il y en a. Mais ayant utilisé de nombreuses fois ces plateformes, je pense que la plupart du temps, on fait une bonne affaire et en plus de l'écologie. Mais bon, passons à autre chose. On a pu voir un phénomène assez étrange, c'est le renouvellement de la mode.
Oui, on peut voir par exemple dans les années 90 qu'il y avait beaucoup de similitudes avec aujourd'hui. En effet, chaque époque est marquée par un style et parfois les tendances vont revenir en force de manière revisitée et plus actuelle.
Oui, par exemple, sur les photos de ma mère, quand elle était jeune, je voyais qu'elle portait des pantalons à pattes d'éléphant ou taille haute. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes en portent. C'est vraiment à la mode.
Ou encore les crop tops, les bombers, les jupes plissées. Et aussi les chaussures, comme les Converse, qui sont indémodables.
Sinon, on peut voir aussi les logos qui sont très ressemblants à ceux d'avant. Exemple, le logo de Barbie, qui dans les années 60-75 est totalement pareil qu'aujourd'hui.
Il y a aussi les coiffures. En ce moment, j'ai remarqué que l'année dernière, pendant le confinement, le style de coiffure des années 90 est revenu à la mode. Par exemple, le brushing à la Jennifer Aniston et le style comme dans le film Clueless.
Même certains accessoires reviennent en rayon, comme les bandeaux en tout genre et les lunettes vintage qui sont à nouveau portées, surtout celles en forme d'œil chat, qui sont un classique qui font référence au chic des années 90.
Ou encore les vinyles qui étaient un moyen d'écouter de la musique. Et les chanteurs d'aujourd'hui comme Daft Punk, Angèle, Grand Corps Malade ou PNL ont sorti leurs disques en 45 tours. Et les jeunes en achètent et en font même leur décoration.
Oui, ça a vraiment un côté vintage.
Sinon, en continuant sur les technologies, ce qui revient en force récemment est l'appareil photo Polaroid. Vous savez, l'appareil qui sort le cliché directement lorsque vous prenez la photo.
Ouais, ça c'est génial.
Ben, je pense que maintenant, les gens aiment beaucoup utiliser les Polaroid. Certainement la nostalgie des photos sur papier. Il est aussi très populaire sur les réseaux sociaux, comme Instagram, avec l'utilisation du filtre noir et blanc.
Sinon, en termes de musique, on a dans les années 90, il y a des musiques qui sont toujours d'actualité, comme Wannabe ou encore Barbie Girl, qui cette musique a été remixée récemment par le rappeur Booba.
Ou encore les groupes de musique comme Pink Floyd, Nirvana, AC/DC, mais aussi Queen, dont les membres restants du groupe ont récemment sorti un film sur leur vie, Bohemian Rhapsody. Et la plupart des musiques du groupe sont connues mondialement.
Oui, en parlant de films, beaucoup sont encore à la mode, comme Footloose, Grease ou les danses de Dirty Dancing, d'ailleurs que j'adore danser aussi. Mais ils font aussi parler des séries.
Bien sûr, la série Friends, elle est iconique. C'est une série les plus regardées et les plus célèbres encore aujourd'hui mondialement. C'est une série intemporelle et il y a des dizaines de collections entières de vêtements qui ont été créées sur cette série.
C'est vrai que la mode est vraiment un sujet très vaste. La mode est et restera présente dans nos vies à tout moment. De même que le renouvellement qui se fait grâce aux célébrités qui ont un impact sur les créateurs de mode.
Il y a aussi la nostalgie, mais peut-être que c'est un paradoxe. On veut être différent de nos parents, mais en même temps, on s'habille comme eux, avant comme quand ils étaient jeunes. Mais d'après vous, quelle sera la prochaine mode ?
Peut-être qu'on retrouvera les couleurs des années 80 qui mettraient un peu des gaietés dans notre confinement.
Et vous, chers auditeurs, vous en pensez quoi ? Pour vous, quels habits porterons-nous dans 10 ans ?
Merci beaucoup les filles de nous avoir replongées dans ces magnifiques années durant lesquelles en effet la mode a bien évolué. Mais pas seulement la mode a avancé durant ces périodes des années 90. Côté robotique et technologie, des grandes avancées sont faites. On se retrouve juste après la musique pour en parler. D'écouter Ukulé Song de Another Happy. Je disais donc tout à l'heure que des avancées technologiques comme robotique ont été faites durant cette période. Je parle surtout du Pathfinder, qui est une sonde spatiale qui a été envoyée sur Mars en 1997. Ceci fut une grande avancée pour l'homme, depuis la robotique a énormément évolué. Et je suis donc avec Maxime, Loïc et Edouard pour en parler plus précisément.
Donc merci de nous recevoir. Je vais d'abord laisser la parole à mon collègue Loïc pour nous parler mieux de Persévérance, qui a atterri il n'y a pas longtemps sur Mars.
Merci Edouard. Alors Persévérance est une mission spatiale d'exploration de la planète Mars, développée par le JPL, détachement de la célèbre agence spatiale américaine de la NASA. La mission consiste à déployer l'astromobile Persévérance sur le sol martien pour étudier sa surface et collecter des échantillons sur sol. L'objectif final est de ramener ces échantillons sur Terre pour permettre leur analyse.
Mais avant cela, retournons un peu dans le passé. En 1737, apparaissait le premier automate de l'histoire dénommé Flûteur. C'est un joueur de flûte automatique qui pouvait jouer 11 airs de musique différentes. Son inventeur, Jacques Vaucanson, né en 1709, se montre très vite doué pour remettre en marche les montres et les mécanismes des horloges des habitants de son quartier. Vers 1750, il perfectionne les métiers à tisser en les automatisant par hydraulique. Au XXe siècle, les premiers robots apparaissent et ils obéissent à un programme strictement préétabli, que ce soit de manière mécanique ou électrique. La robotique commence au début du XXe siècle. L'apparition de robots destinés à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre, avec le Goliath. Le Goliath était une mine filo-guidée pouvant être actionnée à distance. Puis la robotisation de l'industrie commence dans les années 1960 dans le secteur automobile et va se répandre dans plein de domaines comme la robotique industrielle, la robotique domestique, médicale, militaire, scientifique et de transport. Je vais laisser la parole à Maxime qui va nous parler de la robotique militaire et de transport.
Merci beaucoup. Donc c'est à la fin du XXe siècle que la robotique de transport fait son apparition, notamment avec le métro de Lille, qui est le premier métro au monde à utiliser la technologie de véhicule automatique léger, appelé VAL. Les robots domestiques sont destinés au grand public et font apparition au début du XXIe siècle avec l'aspirateur et la tondeuse autonome. Toujours au début du XXIe siècle, mais au niveau militaire, se développent les tourelles automatiques sur les navires de guerre, les appareils volants sans pilote drone et l'exosquelette motorisé.
Alors merci, et du coup maintenant j'aimerais un peu que notre collègue Loïc reprenne la parole pour nous parler de la robotique médicale.
Alors merci Edouard. La robotique médicale est un système robotique utilisé dans le cadre d'une application thérapeutique. Développé par James McWane, il fait partie du domaine de la cobotique, c'est-à-dire la relation homme-robot. Du fait des contraintes importantes en matière de sécurité, ce type de robot est en général doté d'un faible niveau. Le premier robot chirurgical au monde s'appelle Artrobot et il a été développé et utilisé pour la première fois par Vancouver en 1983. La société est pionnière dans le domaine des robots médicaux.
Bref, merci. Et pour en conclure, la robotique a beaucoup évolué depuis le 18e siècle. Elle touche tous les domaines et risque de s'accentuer dans le futur dans notre vie de tous les jours. Mais est-ce que cela pourrait-il devenir dangereux ?
Alors, je vais répondre à cette question. Donc concernant mon avis sur les robots, je pense qu'ils sont plus bénéfiques à la société que néfastes, car les robots pourraient remplacer les êtres humains dans des tâches très complexes comme la conquête spatiale, et également ils pourraient aller dans des endroits inaccessibles à l'homme jusqu'à aujourd'hui.
Alors Maxime, à mon avis, je pense que la robotique peut devenir dangereuse au fil du temps, car si les robots remplacent les humains, cela créera plus de chômage et on deviendra comme les humains dans Wall-E.
Personnellement, je pense que c'est quand même une technologie vraiment intéressante, et oui, il y a des bienfaits comme des choses négatives, c'est la vie, c'est comme tout, voilà.
Ben merci, et merci de nous avoir accueillis sur le plateau.
Bon ben merci les gars, c'est déjà la fin de la Webist. J'espère que vous avez apprécié tous les chroniques et je souhaite remercier tous les chroniqueurs et chroniqueuses pour leur participation. Je remercie aussi l'ingé son et je vous dis à la prochaine fois sur la radio préférée des Français en vous souhaitant une bonne journée.